Laudetur Jesus Christus.
La Russie et les États-Unis se parlent à Riyad, d'une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Le gouvernement russe très loquace puisque depuis Moscou, le pouvoir russe a accepté que Kiev rejoigne l'Union européenne, mais pas l'OTAN. On fait le point juste après les titres. Toutes ces manœuvres diplomatiques se font par-dessus l'Ukraine. Nous verrons que pour les Ukrainiens, les premiers concernés, il est important de rester maître de leur destin à l'issue de ce conflit. Le cardinal Tchernay en visite à partir de demain au Liban jusqu'à dimanche. Il y vient pour témoigner de la proximité du pape François et pour y rencontrer les différentes communautés confessionnelles du pays. En Turquie, vague d'arrestations depuis plusieurs jours contre des membres présumés d'organisations terroristes. Des arrestations qui interviennent au moment où Ankara négocie avec le chef emprisonné du PKK.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, mais tout d'abord quelques nouvelles concernant le pape François. On savait depuis hier que l'audience générale de ce mercredi était annulée. Eh bien, la salle de presse du Saint-Siège a indiqué en fin de matinée que l'audience jubilaire de samedi prochain est elle aussi annulée et que le Saint-Père ne participera pas à la messe de dimanche célébrée dans le cadre du jubilé des diacres. C'est Mgr Rino Fisichella, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation, qui le remplacera. Pas d'autres précisions pour le moment sur l'état de santé du pape, qui poursuit donc au moins son traitement contre une bronchite à l'hôpital jusqu'à dimanche. Hier soir, un communiqué officiel précisait que la fièvre était tombée. Dans l'actualité internationale, les premiers pourparlers directs entre Russes et Américains ont débuté ce mardi à Riyad, la capitale saoudienne. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov pour échanger sur une sortie de crise en Ukraine. Une rencontre qui se veut le prélude à un face-à-face entre Donald Trump et Vladimir Poutine ces prochains mois. Ces tractations semblent avoir eu un effet sur le langage du Kremlin, Olivier Bonnel, qui se dit aujourd'hui prêt à négocier avec le président ukrainien si nécessaire.
Oui, Xavier, il s'est déjà passé beaucoup de choses depuis le fameux coup de téléphone la semaine passée entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président russe serait donc prêt à négocier directement avec Volodymyr Zelensky, a expliqué le porte-parole du Kremlin ce matin, Dmitri Peskov. Un discours encore inimaginable il y a quelques semaines, mais le cadre juridique des accords doit être discuté en tenant compte de la réalité, précise néanmoins Moscou. Allusion au manque de légitimité du président ukrainien, selon les Russes, qu'ils aimeraient, on le sait, bien remplacer par un gouvernement à leurs bottes. Le Kremlin reconnaît également le droit de l'Ukraine à rejoindre l'Europe, vous l'avez dit, mais pas l'OTAN. L'adhésion à l'UE répond au droit souverain de tout pays, a précisé le porte-parole de Vladimir Poutine. Là aussi, un langage qui est une véritable inflexion, mais la question de la sécurité des alliances militaires est d'une toute autre nature, si l'on évoque bien sûr l'Alliance Atlantique. Ces discussions russo-américaines accélèrent donc les recompositions géopolitiques à venir, Xavier. Les Européens eux ne veulent pas être isolés, on le sait, sur ce dossier ukrainien. L'Union européenne veut faire équipe avec les États-Unis pour une paix juste et durable en Ukraine, déclarait encore ce matin la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, qui a reçu à Bruxelles le général Keith Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine.
Olivier Bonnel, l'Ukraine, tout le monde donc a un avis sur la question. La Chine a estimé ainsi que toutes les parties concernées par la guerre devaient participer à des négociations de paix, à commencer par les premiers concernés, les Ukrainiens. Pour Irina Dmitrychin, responsable du département des études ukrainiennes à l'INALCO à Paris, il est important que les Ukrainiens restent maîtres de leur destin dans l'issue, à l'issue de ce conflit.
Il faut vraiment être conscient que ça fait 3 ans que la guerre dure, que ça fait 3 ans que l'Ukraine vit dans un état de tension et d'engagement extrême. On a quand même, au début de la guerre, vous vous souvenez, on disait que l'Ukraine allait tomber en 24 heures ou 48 heures, qu'elle n'allait pas tenir, etc. Donc on oublie, dans toutes ces situations, on oublie l'Ukraine, la société ukrainienne et la position, si vous voulez, de la société ukrainienne qui est engagée dans un combat existentiel. Et ça, tout le monde en est conscient. Les Ukrainiens, bien sûr, veulent que cette guerre s'arrête, ne veulent pas voir tomber ses meilleurs enfants. Mais en même temps, on a suffisamment d'informations sur ce qui se passe dans les territoires occupés. Nous savons que dans les territoires occupés, ce sont des enlèvements, des tortures, des arrestations. On sait aussi qu'aujourd'hui, les jeunes Ukrainiens des territoires occupés sont forcés à s'engager dans l'armée pour combattre être du côté russe. Donc tout cela redonne des forces à la société ukrainienne, en tout cas donne le sentiment extrêmement clair et limpide que la mauvaise paix ou le fait de céder face à cet agresseur ne va pas amener la paix. Ça sera d'autres problèmes et peut-être encore plus graves que l'état de guerre dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Irina Dmitrichine, responsable du département des études ukrainiennes à l'INALCO à Paris. C'est une lourde accusation portée par les Nations Unies à l'encontre du M23. Le groupe rebelle aurait exécuté des enfants à Bukavu. C'est ce qu'affirme le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui a confirmé des exécutions sommaires après l'entrée du groupe armé de soldats rwandais la semaine dernière dans la capitale du Sud Kivu. Selon le responsable onusien, la situation est très chaotique sur le terrain. Hier, le gouvernement congolais a officiellement protesté contre l'inaction et l'attentisme du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Proche-Orient, Israël prévient que son armée restera temporairement en 5 points stratégiques dans le sud du pays. Théoriquement, les soldats israéliens auraient dû quitter le Liban au plus tard aujourd'hui, selon les termes de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah. Ce retard viole la résolution 1701 du Conseil de sécurité, estime l'ONU, résolution qui sert de base à cet accord conclu en novembre dernier. Le gouvernement libanais, lui, estime que toute présence israélienne sur son territoire est une occupation. C'est dans ce contexte que le cardinal Michael Tierney, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, se rend au pays du Cèdre. À début de sa visite officielle demain, il sera jusqu'à dimanche pour encourager les projets de l'église locale et des organisations humanitaires. Il rencontrera notamment le grand moufti, leader de la communauté sunnite libanaise et un groupe de réfugiés syriens. Le cardinal Tierney se fera aussi le messager du pape.
Je suis content d'y aller et de faire mon présence dans un pays qui a besoin d'appui, de prière, de solidarité. J'aurai l'occasion de voir les exemples de ce que l'Église fait pour les pauvres, pour les réfugiés et les choses qu'on fait ensemble avec les musulmans, avec les autres chrétiens. Tout ça sont signes d'espérance pour toute l'Église dans le monde. Je voudrais porter la présence, la prière, la solidarité du Saint-Père au peuple du Liban, aux autorités et à l'Église. Et c'est toujours la joie de chaque visite de pouvoir le faire. Dans ce cas, je voudrais aussi témoigner la grande capacité de foi et de courage que le peuple libanais a montré, et surtout en dialogue entre tous les composants de la société, et qui est un grand signe d'espérance pour notre monde, où le dialogue manque partout.
Concernant la bande de Gaza, cette fois Israël exige une démilitarisation totale du territoire palestinien à l'issue de la guerre et n'acceptera pas la présence persistante du Hamas ou de tout autre groupe terroriste à Gaza. Près de 300 personnes ont été arrêtées ces 5 derniers jours en Turquie, selon les autorités d'Ankara qui livrent ce bilan ce mardi. Il s'agirait de membres présumés d'organisations terroristes, en particulier du PKK. Ces arrestations interviennent justement au moment où Ankara négocie avec le chef emprisonné du parti, Abdullah Öcalan, pour qui il appelle ses combattants à renoncer aux armes. À Ankara, les précisions d'Adam Loeur.
Du point de vue du pouvoir turc, il n'y a pas de contradiction entre cette vague d'arrestations dans les milieux pro-kurdes et les négociations en cours pour obtenir la paix après plus de 40 ans de guerre contre le PKK. Dans les deux cas, il s'agit, selon les autorités, d'atteindre l'objectif, je cite, « d'une Turquie sans terrorisme ». Il s'agit surtout, sans doute, de ne pas relâcher la pression sur le mouvement politique kurde et de ne pas renvoyer une image de faiblesse à l'opinion publique alors que les négociations se poursuivent. Mais, aux yeux du parti pro-kurde légal, le DEM, troisième force politique au Parlement turc, ces arrestations, tout comme la destitution récente de plusieurs de ses maires, sont le signe d'un manque de sincérité du pouvoir dans ses efforts de paix, ou le signe que certaines forces au sein de l'appareil d'État tentent de saboter le processus. Il est clair que la possibilité d'une solution et d'une paix commence à faire perdre le sommeil à certaines personnes, a réagi le parti pro-kurde. Sauf obstacle de dernière minute, Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK emprisonné depuis 26 ans, devrait appeler dans les prochains jours son organisation à renoncer aux armes et à s'autodissoudre. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.